Alors, on a Kylian Mbappé, qui a déjà été la cible de propos racistes de cette sénatrice paraguayenne après la défaite de son pays. C'était en huitième de finale. Et puis maintenant, on a l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. On l'avait oublié, lui. Eh bien, il a écrit dans une tribune, les Bleus disposent d'un effectif de très haut niveau. Jusqu'ici, tout allait bien. Et puis, il a rajouté, mais sans Français. Cela dit, il n'y a pas de Français. Alors là, ça a déclenché une série de réactions, notamment en France. Il y a des ministres, des chefs de parti en France qui ont dénoncé le racisme crasseux de Rajoy, la haine que véhiculent ses propos. Et même chez lui, l'actuel Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dénoncé des déclarations xénophobes. Pourquoi, selon vous, les Bleus provoquent autant de haine raciste? Et c'est quand même entre la sénatrice et l'ancien premier ministre. En plus, ce sont des responsables politiques, ouais. Ce sont des élus, Fatima.
Écoutez, moi, ce que je veux retenir dans cette histoire, c'est vraiment les mots de Pedro Sanchez qui résument bien le premier ministre espagnol, parce que t'as cité mais une partie. Je vous dis en entier ce qu'il a dit, et moi, ça me parle pour le coup. Il dit, il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer en jouant au football, en prenant soin de nos aînés ou en ouvrant des commerces. L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre, pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve pour la demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde. Je trouve que dans sa déclaration, non, il y a quelque chose de beau, parce qu'on peut le voir comme une déclaration politique, mais je peux te dire que quand on te nie ton identité, non, parce que ça te touche pas, mais moi, on m'a tellement nié mon identité, avant, ça me faisait pleurer.
Tu te sens blessé quand on attaque comme ça les Bleus?
Non, maintenant, ça me blesse plus maintenant. Vous savez pourquoi? Non, ça me blesse plus. Je leur dis, non, ça me blesse plus, plus jamais il y aura une larme sur ça. Je leur dis juste, tenez bon, vous savez qui vous êtes. Après, le racisme, moi, le racisme frontal, comme ça, ne me fait absolument plus rien. J'ai plus de mal avec le racisme insigneux, le racisme insidieux, comme ça, parce qu'il est plus difficile à combattre. Celui-ci, pour moi, la France est français, celui qui contribue à son pays. C'est vraiment la phrase de Romain Gary. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines.
Donc, on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas les origines. Et ce qui compte, moi, c'est que cette équipe joue pour la France.
C'est très petit, c'est le paraître. Donc, ouais. Effectivement, moi, je regarde les actions, Monica, et l'appartenance.
Monica est avec nous au 32-16 avant d'écouter Charles et Jean-Loup. Monica, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Brie-sur-Marne, Val-de-Marne, en région parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations?
Alors moi, ce qui me surprend, c'est que en fait, quelque part, on s'insurge alors qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, dans tout est fait en France pour que le racisme monte. Il y a un racisme décomplexé qu'on voit un peu tous les jours.
Ah là, c'est pas en France, hein, c'est au Paraguay,
oui,
mais, en Espagne.
Écoutez, au Paraguay, mais on leur a laissé la permission du fait que déjà nous, on n'arrive pas à le gérer. On laisse un boulevard, par exemple, à des chaînes comme CNews. On invite et on continue à inviter des gens comme Zemmour qui ont été quand même multi-condamné sur des propos racistes. On rigole parce que Jordan Bardella s'esclave sur Kylian Mbappé, mais en attendant, moi, ce que je vois, c'est que Kylian Mbappé, il fait le travail aussi en France pour nous ramener la coupe à la maison. Donc aujourd'hui, on a laissé faire. Et on ne peut pas s'insurger de voir, en ayant montré cet exemple, on ne peut pas s'insurger de voir d'autres prendre justement la part belle et s'imprégner de ce qui se passe déjà en France. Ils se disent, mais attendez, on a déjà des enfants de la République qui ne sont pas défendus sur ces questions du racisme. Donc nous, qui sommes-nous aujourd'hui et tout pour justement fermer nos bouches sur ces sujets-là? Ben, ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'on leur laisse de quoi faire. À partir du moment où, même quand on voit le gouvernement, un enfant de la République comme Mbappé se fait insulter, ils ont mis du temps à réagir. Et donc c'est tout ça auquel on fait face aujourd'hui. C'est ce manque de réaction, ce manque d'indignation et à géométrie variable, parce qu'en fait, que n'aurait-on pas dit, par exemple, moi je suis pas spécialement une pro-Mélenchon, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si, par exemple, et tout, ça avait été un Mélenchon qui avait été
Monica, vous citez...
au cœur de ce sujet-là. Ouais. Donc il faut être équitable. Aujourd'hui, quand on attaque les uns, il faut attaquer les autres.
Monica, France, vous avez cité Éric Zemmour. Vous avez cité Éric Zemmour. C'est vrai qu'avant le Mondial, Éric Zemmour a dit que cette équipe de France ne représentait pas vraiment la France, mais plutôt la banlieue.
Et
l'immigration.
Exactement, et on continue à l'inviter sur des plateaux sur des questions de racisme. On lui demande s'il condamne tel ou tel propos raciste, etc. Alors qu'on sait pertinemment qu'au vu de la réponse...
Il a été condamné par la justice, vous l'avez dit vous-même.
Et ben, il a été condamné, ah, donc, et aujourd'hui, on lui laisse un boulevard pour s'exprimer, comme pour banaliser aussi ses idées.
Bah, un boulevard, quand, dire, quand il est interrogé, il est questionné, contredit, s'il faut le contredire.
Il est questionné, mais en même temps...
Le débat n'est pas sur Zemmour, hein, Monica. Je donnais sa phrase qui ressemble peut-être un peu à ce que dit Raroy, Jean-Loup Bonamy, Monica. Jean-Loup.
Non, il y a beaucoup de choses. En effet, être français, c'est pas une histoire de couleur de peau, puisque je constate que, par exemple, à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui est blanc, aux yeux bleus, qui s'appelle Macron, moi, je ne le considère pas comme français, à titre personnel.
Ah, carrément.
Donc, tu vois que c'est pas une histoire d'origine.
C'est bizarre de dire ça.
Qu'est-ce que t'as contre le président
d'Allemagne? Tu pourrais te lever quand tu parles du président.
Voilà. Donc, tu vois. Donc, moi, je considère qu'en effet, Kylian Mbappé est bien plus français qu'Emmanuel Macron. Donc, en effet, je suis d'accord avec cette analyse que, être français, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, puisque on a vu les traîtres qui sont dans la politique française et qui trahissent les intérêts nationaux depuis maintenant un certain temps. En effet, ils sont bien blancs avec des noms français de souche, entre guillemets. Ça ne les empêche pas d'être des traîtres pour autant.
Pourquoi Raroy, la sénatrice, c'est pour nous déstabiliser aussi.
Aussi une chose, je suis désolé, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais oui. J'ai regardé les commentaires les plus racistes que j'ai vus contre des joueurs noirs, par exemple. Moi, je les ai vus au moment de la CAN, par exemple, qui venait de supporters d'équipes du pays du Maghreb. Et j'ai vu sur Twitter le déferlement de racisme anti-noir qui venait de supporters d'équipes du Maghreb. Là, j'ai vu. Donc, tu vois, il y a aussi le... C'est oui, madame le
racisme. Il y a des maghrébins racistes.
Charles.
Non, mais en tout cas...
Comment on répond à Raroy? On lui dit quoi, alors?
Bon, c'est un vieux schnock, on s'en fout.
En plus, il est socialiste.
Ils ont le seum par avance d'être battus. La meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est de battre l'Espagne.
Oui.
Il a lieu quand ce match? Tout à l'heure?
Non, alors, ce match, on va expliquer à Charles. Le match a lieu demain. Alors, ça tombe
le 14 juillet.
C'est le 14 juillet. Quel beau symbole. Le jour de la fête nationale, le jour de ton anniversaire, puisque je rappelle à nos auditeurs que c'est le 14 juillet.
14 juillet 89.
Eh bien, ils ont décidé ce jour-là d'organiser cette demi-finale France-Espagne.
Et donc, faut qu'on batte les Espagnols. Bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qu'ils savent faire, les Espagnols?
Pas de racisme.
Des tomates.
Attends, moi j'adore les
Espagnols. Pas de préjugés. Attention, parce que c'est une équipe qui nous a battu.
Et du socialisme, en gros. Voilà,
oui, voilà.
Non, moi, sur la lutte contre les violences
les faites aux femmes,
ils ont fait du concret. Il y a plein de choses où ils ont fait vraiment du concret.
Pardon, il n'y a aucun...
Il n'y a aucun responsable
français, je suis désolé, qui traite ainsi l'équipe étrangère.
Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce que ça montre, contrairement à ce que disait notre auditrice avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord, c'est qu'en France, OK, il y a des problèmes de racisme. Mais on voit que la France, c'est le pays le moins... raciste du monde. Donc, regarde la composition de son équipe, regarde le fait que ça ne suscite aucun tollé dans l'opinion publique française, ni dans les médias, ni dans la classe politique. Tu vois bien que la parole raciste au Paraguay...
Il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen avait quand même estimé qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France.
Tu vois bien que la parole raciste au Paraguay, par exemple, elle peut s'exprimer d'une manière extrêmement brutale, extraordinairement violente, alors qu'en France, ça ne vient à l'esprit de personne. Et que les candidats soi-disant d'extrême droite comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne font pas de commentaires
de France. Je disais que l'équipe de France a toujours ressemblé à ce qu'est la France et notamment à l'histoire de l'immigration française.
Mais surtout
dans la génération Platini, on avait des Platini d'origine italienne. On a eu dans la génération Coppa des joueurs qui venaient de Pologne.
Conclusion, tu ne peux pas dire qu'en France il y a le racisme systémique.
Vous remarquerez que pour une fois, nous n'avons pas fait de discrimination positive. C'est-à-dire qu'on s'est simplement demandé. Ben oui, en fait.
Non, on prend les meilleurs
et basta. Oui.
Ben,
il se trouve que les meilleurs, en l'occurrence,
dans le cas présent,
sont un grand nombre de personnes racisées, comme on dit aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on applique ce principe partout. Pas de discrimination positive, on prend simplement les meilleurs. Là, c'est un cas typique. On veut pas perdre les matchs, donc on fait pas des quotas En fonction des couleurs de peau.
Tu veux dire, en tout cas, non, oui. Juste pour le critère, enfin le raisonnement entier de Jean-Loup, c'était n'importe quoi quand même.
Non, c'est-à-dire on n'entend pas dans la classe politique française les phrases qu'on entend au Paraguay.
Non mais.
Bah excuse-moi, c'est pas n'importe quoi.
Non, non,
c'est qu'au Paraguay, une sénatrice.
Comme l'équipe de foot est comme ça, c'est-à-dire c'est bon, on a tout réglé.
C'est pas exactement ce que j'ai dit.
Non mais si elle perdait, Jean-Loup.
Ah ben quoi, ils perdent, ils redeviennent l'origine.
Non mais attends, parce que je crois que
tu gagnes, t'es français, tu perds, t'es algérien.
Non mais c'est pas
que la victoire.
Non mais ce qui m'intéresse, ce qui montre que la France n'est pas un pays raciste, c'est pas seulement, pas principalement la composition de l'équipe. Non, c'est que les phrases comme celle de la sénatrice paraguayenne, tu ne les entends pas en France. Elles ne sont pas prononcées en France. Et ça serait inimaginable qu'un politique dise ça. Même Jean-Marie Le Pen ne disait pas ce qu'a dit la sénatrice paraguayenne. Et si jamais c'était dit, cette phrase serait immédiatement et unanimement condamnée par toute la classe politique et médiatique, y compris par Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Aussi au Paraguay, les gens, il y a des hommes politiques qui ont condamné.
Déjà, il y a beaucoup d'immigration allemande au Paraguay.